Merci d'écouter RFI à 22h à Paris, 21h en temps universel.
Victor Missistrano.
À la une de ce journal, ces scènes de chaos et de désolation en Birmanie au lendemain du violent séisme qui a touché le pays d'Asie du Sud-Est. Au moins 1644 personnes ont été tuées, un bilan humain qui pourrait fortement s'aggraver alors que l'aide internationale se met en place. En Turquie, la contestation s'intensifie après l'arrestation il y a 10 jours du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la ville aujourd'hui. Nous entendrons l'un de ces manifestants. Et puis aux États-Unis, l'Utah interdit la fluoration de l'eau potable. C'est le premier État américain à prendre cette décision. Mais alors, à quoi sert la fluoration de l'eau et pourquoi l'interdire? Réponse en fin de journal. Les secours continuent de rechercher des survivants en Birmanie après le tremblement de terre le plus dévastateur depuis des décennies dans la région. Séisme de magnitude 7,7 qui a aussi endeuillé la Thaïlande. Les chiffres provisoires font état de plus de 1644 morts, mais ce bilan devrait encore s'alourdir. Les moyens de communication sont endommagés et l'étendue du désastre reste très difficile à évaluer. Fait rare en Birmanie, l'un des pays les plus fermés du monde en pleine guerre civile, le chef de la junte militaire a lancé un appel à l'aide humanitaire internationale. La Chine dit avoir déployé une équipe de 82 secouristes. L'Inde a envoyé un avion militaire chargé d'aide humanitaire. De son côté, l'Union européenne annonce une aide d'urgence à hauteur de 2,5 millions d'euros. Eva Ernechirova est porte-parole de l'UE pour les questions humanitaires.
L'Union européenne a réagi immédiatement, seulement quelques heures après les nouvelles tristes. L'aide immédiate était débloquée pour les opérations d'aide initiale et nous espérons que cette nouvelle aide humanitaire contribuera à sauver encore des vies et répondre aux besoins immédiats. Et nous voudrons mettre l'accent sur les communautés déplacées et touchées par les conflits. Bien sûr, l'Union européenne a également activé son service satellitaire qui s'appelle Copernicus, pour faciliter l'analyse d'impact. Notre partenaire sont indépendants, ce sont ONG ou les Nations Unies.
Des propos recueillis par Pierre Olivier, les Nations Unies s'inquiètent d'une grave pénurie de fournitures médicales en Birmanie qui perturbe la réponse à ce séisme. De l'autre côté de la frontière en Thaïlande, la recherche de survivants se poursuit également. La métropole de Bangkok a ordonné le déploiement de plus d'une centaine de spécialistes pour contrôler la sécurité des bâtiments après avoir reçu plus de 2000 signalements de dommages. Droit, loi, justice, un slogan prononcé ce samedi à Istanbul où se sont rassemblés plusieurs centaines de milliers de manifestants. Nouvelle journée de protestation à l'appel de l'opposition au président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le mouvement dénonce l'incarcération du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, et le virage autoritaire du pouvoir. Illustration avec ce témoignage dans la foule des manifestants de Levant, un jeune habitant d'Istanbul.
Je suis ici pour défendre la démocratie et la justice. La démocratie est en danger parce qu'on est en train de nous ôter la liberté de vote, parce que la justice et la loi sont des instruments aux mains d'une seule personne. Si tous les pouvoirs et si les médias ne sont plus libres, alors ce n'est plus une démocratie. Nous sommes ici aussi pour défendre Ekrem İmamoğlu parce qu'il est innocent. Ils l'ont emprisonné parce qu'il allait gagner les élections et parce qu'il est proche du peuple. Le pouvoir a peur de nous et il a encore plus peur d'Ekrem İmamoğlu.
Un témoignage recueilli par nos envoyés spéciaux Bertrand Eclair et Daniel Valo. En Syrie, le président par intérim Ahmed El-Shara annonce la formation d'un nouveau gouvernement. Il dit vouloir édifier un état fort et stable. Depuis la prise de pouvoir à Damas par une coalition dirigée par des islamistes le 8 décembre, une équipe ministérielle était chargée de la gestion des affaires courantes. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense conservent leur poste. Et Hind Kabawat, une femme, a été nommée ministre des Affaires sociales et du Travail. Le Hamas dit accepter une nouvelle proposition de trêve avec Israël dans une allocution télévisée prononcée à l'occasion de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Khalil al-Aya, haut responsable du mouvement islamiste palestinien, affirme que celui-ci a approuvé une proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par l'Égypte et le Qatar. Israël ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. À Gaza, cela fait 6 jours que des secouristes palestiniens sont recherchés, 6 jours qu'ils n'ont pas donné signe de vie. Sur place, la préoccupation augmente. Le Hamas a réagi de son côté. Amira Sulaim à Ramallah revient sur cette affaire.
Où sont-ils ? C'est la question que pose la défense civile et le Croissant Rouge palestinien, alors que des secouristes manquent à l'appel. En opération dans la banlieue de Rafah dimanche dernier, ils n'ont plus donné signe de vie depuis près d'une semaine. Hier, la défense civile de Gaza a dit avoir retrouvé le corps du chef de son équipe déployé sur place. Quelques heures plus tard, l'armée israélienne a reconnu avoir tiré sur des ambulances dimanche dernier. Dans un communiqué, l'armée précise qu'elle ciblait ce jour-là des véhicules occupés, je cite, « par des terroristes du Hamas ». Une opération suivie d'autres frappes contre des véhicules jugés suspects dans des ambulances et des camions de pompiers. Israël accuse les combattants du Hamas d'utiliser les ambulances à des fins militaires. Le Hamas, de son côté, a dénoncé ce qu'il appelle un massacre brutal et délibéré qu'il assimile à un crime de guerre. Ce matin, le Croissant Rouge dit être toujours interdit de mener des opérations de recherche des équipes médicales disparues. Amira Sulaim, Ramallah. RFI.
Moussa Dadis Camara est libre, il est sorti de prison hier soir. L'ex-dictateur guinéen, condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour le massacre du 28 septembre 2009, a été gracié par le chef de la junte. Il a quitté hier soir la prison centrale de Conakry, peu après l'annonce de sa grâce à la télévision nationale. Alors qu'il naît, il n'est toujours pas apparu en public. Plus de détails dans moins d'une heure et demie dans la dernière édition d'Afrique Soir. C'est un mouvement né aux États-Unis il y a seulement un mois et demi. Tesla Takedown, ou démantèlement de Tesla en français, du nom du constructeur de voitures, propriété d'Elon Musk. Aujourd'hui avait lieu la première journée d'action à l'échelle de la planète, des manifestations à New York, mais aussi à Paris, où une quinzaine de personnes se sont rassemblées devant un concessionnaire. En Allemagne, près de Berlin, ils étaient une vingtaine devant la seule usine Tesla d'Europe. Un anti-Elon Musk de la première heure, Roland, vit à Grünheide, ce petit village où il y a 5 ans, l'homme d'affaires américain a décidé d'acheter 300 hectares de forêt et de tout raser pour y construire son immense usine.
Ce qui m'impressionne, c'est que les gens du monde entier participent désormais à cette lutte contre un homme qui mélange les genres pour le pouvoir et pour toujours plus de pouvoir. Il fusionne le pouvoir d'influence avec X, le pouvoir économique et maintenant le pouvoir politique. Les gens se rendent compte que ça va dans une direction qu'une majorité dans le monde ne veut pas du tout. Ils veulent une démocratie. C'est quand même fou que nous ayons à la défendre, non ? Elle ne doit pas être abîmée. C'est pour elle et pour protéger nos droits que nous devons tous aujourd'hui nous regrouper. Avec une action de protestation mondiale, cela fait chuter les actions. Tesla pourrait bien finir comme Nokia. C'est aussi un peu stupide parce que des emplois sont concernés. Il y aura des chômeurs. Ici, il y a eu beaucoup d'investissements et d'argent public où Musk a préféré polluer une zone où l'eau potable est une ressource protégée et raser toute une forêt.
Et puis c'est le premier État américain à le faire. L'Utah interdit la fluoration de l'eau potable. La loi signée cette semaine prendra effet le 7 mai prochain. D'autres États républicains comme le Dakota du Nord ou le Tennessee envisagent de prendre le même chemin. Cette pratique, qui existe depuis 1945 dans une bonne partie des États-Unis, fait l'objet d'interrogations. Elle est surtout la cible de Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé de Donald Trump. Mais alors à quoi sert la fluoration de l'eau et son interdiction est-elle basée sur des fondements solides ? Élément de réponse avec Pauline Glaise.
L'eau du robinet de près des 2/3 des Américains contient cet additif et les États-Unis ne sont pas une exception. La pratique a cours dans plusieurs autres pays. Objectif, réduire les risques de caries. Le fluor restaure les minéraux perdus par l'acide et limite les effets néfastes des bactéries. D'ailleurs, beaucoup de dentifrices en contiennent. Mais Robert Kennedy Jr. a fait de l'ajout de fluorure un épouvantail. Dans un tweet de novembre dernier, il l'accuse d'être associé à de multiples maux comme le cancer des os ou des pertes de QI. Seulement voilà, selon des spécialistes consultés par l'AFP, quand il est consommé à des doses adéquates, il ne représenterait pas de danger pour la santé. L'Association américaine pour le cancer invite à poursuivre les recherches, mais note qu'à ce jour, les preuves sont incertaines. Une récente étude évoque bien une association statistiquement significative entre l'exposition aux fluorures et des QI moins élevés chez les enfants, mais l'association est faite pour une quantité supérieure à 1,5 mg par litre d'eau, soit 2 fois la limite recommandée aux États-Unis.
Les explications de Pauline Glaise du service environnement d'RFI. C'est ainsi que se termine cette édition à 22h10, ici à Paris, tout de suite. Sur la radio du Monde, vous retrouvez Ici l'Europe.